Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, évidemment, ce qui nous a interpellé, on en a parlé hier, c'est les revendications des joueurs de tennis et des joueuses, des stars du circuit à Roland-Garros. On avait parlé d'un possible boycott il y a deux semaines pour lutter contre la répartition des revenus des tournois du Grand Chelem. Hein. On rappelle, certains joueurs et joueuses veulent que la répartition soit un peu plus en faveur des stars du circuit, notamment, et des joueurs en général. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps des moments comme ça avec des révoltes, des petites rébellions, des grognes et des joueurs qui veulent défendre leurs droits ou en tout cas porter des revendications. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais justement qu'on parle de ça aujourd'hui, de ces moments où les sportifs vont défendre des droits, lèvent un peu le poing. Finalement, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans le sport, mais qu'on ne vit pas toujours de l'intérieur. Nous, journalistes, on raconte ça un peu de l'extérieur. Marc, dans le cyclisme, ça existe, c'est déjà arrivé.
Ah oui.
Et ça s'organise quand même dans le vélo. Comment tu as vécu ça dans ta carrière?
Moi, j'ai plusieurs exemples. Le premier, c'est le premier tour que remporte Bernard Hinault en 78, où les coureurs ont fait grève juste avant la ligne d'arrivée pour protester contre les demi et tiers d'étapes, parce qu'on était même arrivé à proposer trois tiers d'étapes dans la journée, ou des demi-étapes. Et les journées étaient interminables, c'était les forçats de la route et les coureurs s'étaient unis, avaient fait grève. Et ils ont gagné le match contre les organisateurs.
Comment ils avaient fait grève ?
Ils ont mis pied à terre. Il n'y a pas eu de course. Ils ont mis pied à terre à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ils ont passé la ligne d'arrivée en marchant. Mais ils ont gagné.
Et toi, dans ta carrière ?
Et moi, j'ai connu une autre un peu plus tard, en 91. L'UCI voulait nous mettre des casques sur la tête. À l'époque, c'était des casseroles. Et on a dit non. Ils nous ont imposé. On a fait une première grève à Paris-Nice où on a commencé à discuter et on arrive au Tour de France. Mettez le casque. Non, on ne met pas le casque. On a commencé à retirer le casque quand il a fait chaud. Et il y a un coureur qui avait été viré du Tour parce qu'il n'avait pas pris l'avion avec l'organisation du Tour pour se rendre dans les Pyrénées. C'était à Pau, je crois, si ma mémoire. Pau ou Lourdes, mais Pau, je crois. Et là, on s'est retrouvé face aux organisateurs. On a dit non, on part pas. Vous nous enlevez les amendes, sinon on prend pas le départ. Et il y a eu une négociation, on a fini par prendre le départ, mais les amendes ont été maintenues. Et Verbruggen est arrivé sur le tour.
Le patron
de l'UCI de l'époque a dit, oui, mais non, vous comprenez, machin et tout. Et il me dit, on peut en discuter et tout, mais je laisse les amendes. J'ai dit, si vous laissez les amendes, moi, je vous fais une grève au championnat du monde.
C'est toi qui as dit ça?
Oui.
Toi, t'es allé voir le président de l'UCI?
Bien sûr.
Ah, au nom des coureurs.
Au nom des coureurs, mais j'étais tranquille, les coureurs étaient avec moi, parce qu'on avait tous des amendes.
Mais comment ça s'organise, ça? Parce que c'est en tennis, c'est difficile à organiser.
Non, mais on parlait entre nous. C'est fort, parce que pour un sport individuel à arriver à rassembler,
Le sport, quelle que soit l'activité, c'est nous qui. Enfin, je dis nous, parce que je me considère encore comme un sportif. Quelque part, ce sont les acteurs et c'est. Le sportif qui a le vrai pouvoir, il est là. Alors, je sais que ça va pas plaire dans certaines sphères que je dise cela, mais c'est la réalité. Si les sportifs se disent non et tapent du poing sur la table, ils auront toujours gagné.
Oui.
Toujours.
Effectivement, à condition.
Pour peu qu'ils restent unis et faire sur leur
place. Exactement. C'est pas pour peu.
Les instances s'arrangent toujours pour mettre le petit grain de sable quelque part, pour mettre les gens en guerre les uns contre les autres, ou entretenir des rivalités. Mais si demain, le monde du sport, quelle que soit l'activité sportive, dit non, c'est les sportifs qui gagnent.
Pierre, dans ton expérience.
Ouais, non, parce que ça, ou Marc, je disais dans les sports individuels, mais je trouve que dans les sports collectifs, c'est parfois encore plus dur, et notamment avec le sport co-professionnel.
Bien sûr.
Parce que
de quoi, de se rassembler?
Ben oui, d'avoir des intérêts communs entre les clubs. Au sein des clubs, t'as des joueurs qui sont sous contrat, expérimentés, et qui sont pas en risque, et d'autres qui sont dans d'autres situations. Donc la mobilisation générale, elle est relativement dure, en tout cas moi, celle que j'ai connue. Mais moi, il y a eu un épisode, je suis très mauvais sur les dates, mais on va dire autour de l'année 2004, je crois que c'était 2003-2004, sur la convention collective du rugby, qui nous convenait pas et qu'on essayait de négocier avec la Ligue à l'époque. Et la négociation n'aboutissait pas, et donc il y a eu une menace de grève s'est manifestée de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a dit, on va jouer les matchs, par contre, on décale le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'à l'heure d'entrée des joueurs sur le terrain, on ne rentre pas. Et tant que vous ne dites pas oui, on ne rentre pas. Et donc, on a tenu, je crois, 8 minutes. Et au bout de 8 minutes, la Ligue, en lien avec le diffuseur,
Ah oui, parce que là, le diffuseur, surtout, n'est pas content. Ouais. Voilà, mais ça, c'est dur à mettre en place, Pierre.
C'est hyper dur.
Toi, tu faisais partie des représentants des joueurs.
Moi, j'étais beaucoup impliqué dans le syndicat des joueurs de rugby qui s'est créé dans ces quelques années avant. Je crois que c'était en 2000 ou 99.
Et puis, en plus, tu étais capitaine du Stade français aussi. Donc, tu avais ce rôle-là aussi dans l'équipe.
Mais la mobilisation, elle est complexe parce que, je te dis, c'est pas les mêmes clubs qui sont plus rivaux, mais comme dans tout ça, dans tous les sports, et d'arriver à mobiliser tout le monde en même temps pour quelque chose qui doit être légitime pour le plus grand nombre, c'est pas simple. Mais bon, voilà, je suis d'accord avec Marc.
Mais t'as dû croiser des joueurs qui voulaient pas le faire.
Mais plein et tout. Pourquoi, le temps.
Qui voulaient pas se mettre en difficulté.
Ils osent pas.
Il y a des appréhensions.
Ils sont d'accord sur le principe, mais le fait de mener une action les engage eux personnellement, et là c'est compliqué en fait.
Ça dépend dans ton club de ta relation. Enfin, je veux dire, il y avait des managers dans les clubs. Enfin, je pense à Toulouse notamment, parce que Guy Novès, par exemple, à l'époque était très influent sur le rugby français. Du coup, il y avait des joueurs sur des problématiques qui étaient concernés, mais ils osaient pas. Il y a eu d'autres clubs aussi, parce qu'il fallait un peu finalement se confronter à la direction du club. Et donc, ils étaient d'accord sur le fond, mais sur la forme, ils disaient pas grand-chose.
Alors, moi, j'ai pas connu ça, parce que quand je jouais, le tennis féminin était certes le sport féminin le plus diffusé dans le monde, mais les écarts entre le prize money masculin et féminin étaient colossaux. Déjà, quand je jouais, non, le prize money n'était pas égal sur les tournois du Grand Chelem. Ça a juste une dizaine d'années. Donc, on se contentait finalement de ce qu'on nous donnait. En revanche, dans le tennis, il faut savoir que l'ATP, l'Association du Tennis Professionnel, et la WTA, initialement, ça a été initié par les joueurs de tennis en 72.
C'est une grande force.
Mais c'était le rassemblement des joueurs qui, voulaient être ensemble pour défendre leurs intérêts face au tournoi qui était en train de s'organiser. Aujourd'hui, l'ATP, elle représente autant les tournois et un peu les joueurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Djokovic a voulu lancer un syndicat des joueurs. C'était en 2019, ça s'appelle le Professional Tennis Player Association, et l'idée, c'était vraiment un syndicat que pour les joueurs. Et l'idée, ce n'était pas de défendre les intérêts des tout meilleurs, puisque les tout meilleurs, j'ai envie de dire, ils n'ont pas de problème. Mais vous savez pourquoi elle a eu du mal à prendre? C'est que Djokovic était à l'initiative, mais ni Nadal ni Federer ne voulaient y participer.
Pourquoi c'est difficile dans le tennis, toi qui dis?
Alors c'est difficile parce que celui qui est numéro un mondial, le fait de boycotter un tournoi et de pas prendre son 500 000 dollars ou son 100 000 dollars sur quelque chose, mais pour un joueur qui est 90, puis lui c'est vital en fait.
Tu vois quoi, les intérêts sont trop différents.
Ils sont trop différents. Et en fait, la revendication aujourd'hui qu'on voit des tout meilleurs, c'est pour qu'en fait, finalement, tout le monde puisse vivre correctement du tennis. Alizé et surtout Marion le disait hier, j'étais d'accord avec elle. En fait, l'idée, c'est pas de gagner plus d'argent, c'est qu'en fait, quand tu es entre 90 et 200.
Il y a une meilleure répartition.
En fait, tu touches moins d'argent, mais donc tu peux moins investir. Parce que c'est un sport individuel où, on répète, tu choisis ton staff. Tu es ton chef d'entreprise, donc tu paies tes déplacements. Donc en fait, si tu as moins d'argent, tu as donc moins d'accompagnement, donc il est difficile aussi de rattraper les meilleurs. Et donc en fait, elle est là le vase des communicants. Mais c'est vrai que dans le tennis rassemblé, et puis on n'est pas 50, hein, il y a 1000 joueurs de tennis. Alors tout le monde, je veux dire, le 900e, on peut peut-être pas considérer qu'il est joueur de tennis professionnel dans sa discipline. Alors,
on a vu par exemple sur la tentative de boycott entre guillemets, tout le monde n'était pas réuni. Djokovic a soutenu mais mollement, on va dire. On a vu certains joueurs qui n'étaient même pas impliqués. Loïs Boisson a dit bon, je suis soit de loin.
Comment tu veux qu'elle soit impliquée? Ça fait à peine un an qu'elle est sur le circuit professionnel. C'est ce qu'on disait en termes d'individualité. Chacun ses intérêts, et dans le tennis rassemblé, que c'est difficile. Il y a des règles qui changent pas. faut pas se mentir, parce que Federer, il voulait pas que ça change, hein.
Oui, oui.
Donc la voix des meilleurs, elle a une voix de blocage.
Mais il faut assumer en plus d'être un leader de représentation, hein, syndical. Effectivement, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Quand un sportif porte des revendications, tiens Pascal, on t'a pas entendu encore là-dessus. Dans le foot, vous êtes organisé quand même.
Oui, il y a l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, donc le syndicat qui nous représente, qui représente les joueurs, l'UNECATEF qui représente les entraîneurs, et puis si on va mondialement, la FIF Pro qui représente.
Vous avez une bonne structuration.
Depuis de nombreuses années.
Mais Pascal, il y a une bonne structuration, mais j'ai aussi en tête, tiens, pour aller dans l'actualité, récemment, il y a eu beaucoup de questions sur les calendriers fous dans le foot actuellement, avec la Ligue des Champions qui a plus de matchs, avec la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. La FIFA a imposé son truc, et les joueurs, même si certains n'étaient pas d'accord, même pas forcément plus organisé.
Mais la FIFA Pro mène des débats avec la FIFA de manière à ce que ça change. Aujourd'hui, il est question de limiter le nombre de matchs, d'avoir un quota de matchs qu'on ne peut pas dépasser dans une saison. À force, c'était mieux d'être organisé pour revendiquer. Fatalement, comme le disait Marc tout à l'heure, la force que représentent les joueurs professionnels mondiaux va faire que à un moment donné, la FIFA, elle va s'infléchir. Quand on parle des émoluments des femmes et des hommes, on veut l'équilibre des salaires. On va y venir, on y vient et on y viendra, et c'est normal. Donc l'organisation, en fait, le fait d'être organisé donne une meilleure couverture et une meilleure lisibilité pour les joueurs, et leur voix va compter immanquablement.
Ouais, non, mais parfois il y a un peu ce sentiment aussi que les instances sont trop fortes pour les joueurs, parce que là je parlais de la FIFA effectivement, mais ça peut être le cas aussi des grands chelems actuellement. On voit très bien, les joueurs au final ne sont pas vraiment allés au bout de l'histoire. Hein. Le mot boycott a été murmuré à Rome il y a deux semaines. Dans d'autres sports, c'est la même chose. C'est plus difficile.
Ce qui est difficile, c'est que s'il y en a qui boycottent Roland pour rester sur le tennis, c'est leur vitrine de l'année. Et donc, eux, bien sûr, ils voudraient que les revenus dédiés aux joueurs, ils passent à 22%, parce que eux, ils en seraient bénéficiaires.
Que va dire ton sponsor si tu ne vas pas en Roland Garros?
Exactement. T'as les sponsors, et puis t'as ta performance, t'as envie d'y briller, c'est chez toi pour les Français. Et donc, en fait, c'est là où c'est difficile de réunir tout le monde. Mais après, si tu pars, si t'es pas uni ou si tu représentes pas une majorité, ça fonctionne pas.
C'est la même chose dans le vélo, Marc. Vous représentez en plus des équipes de sponsors. Oui, vous défendez pas que vos propres intérêts. C'est difficile. En fait, c'est ça qu'on veut aussi évoquer là. Après, le sport qui fait la revendication, c'est difficile de prendre la parole.
Le problème, c'est que les instances sont en général très politiques. Quand on arrive au sommet des instances internationales, c'est qu'on est un politique. Et le problème des sportifs, en globalité, quelle que soit l'activité sportive, c'est qu'on n'est pas rompu et organisé à faire de la politique. Et on est dans l'instantané, on est dans la prise d'opposition par rapport à des événements ponctuels. Donc c'est difficile de se réunir. Mais nous, dans le cyclisme, il y a des syndicats. Il y a le syndicat international, il y a le syndicat national aussi, qui a toute sa place et qui œuvre et travaille. Alors aujourd'hui, ça se fait plutôt dans une bonne concertation avec les instances, mais moi je reste persuadé que le pouvoir des sportifs à travers les syndicats pourrait être beaucoup plus conséquent et plus important.
Ça dépend de ce que représente ton syndicat aussi.
France, par exemple, c'est très simple, tous les coureurs sont syndiqués. Ouais. Automatiquement.
Ok. Donc là, foot aussi, hein, la plupart, hein, c'est la grande majorité des joueurs.
Cette discussion au rugby, savoir
aujourd'hui, en France, grâce à l'action des syndicats, grâce à l'action du syndicat, grâce à l'action de la Ligue, aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur professionnel ont un contrat de travail. Mm-hmm. Que ce soit le petit mécanicien d'une équipe continentale ou le coureur d'une équipe Pro Tour ou World Tour, tout le monde a un contrat de travail. Et c'est ça, c'est la lutte. Je vais même pas parler de lutte, je vais parler d'osmose de la gestion du sport. Et là, je vais me faire le défenseur de la Ligue nationale du cyclisme, dont j'ai été le président. Pendant toutes ces années, on a œuvré pour avoir une osmose entre nos instances et nos coureurs. Et on a un modèle qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on se respecte les uns les autres et parce qu'on tient compte les uns des autres. Et on sait surtout qu'on a besoin les uns des autres.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, le sportif et les revendications. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, notamment parce qu'on a des managers ou même des chefs d'entreprise, parce que quand on est joueur de tennis, finalement, on est chef d'entreprise aussi, parce qu'on gère son entraîneur, on paye son entraîneur. T'as été capitaine de ton équipe, Pierre, donc parfois t'allais voir le manager aussi, peut-être au nom de l'équipe, pour demander des choses. Pascal, entraîneur d'équipe, quand tu vois des joueurs venir te voir avec des revendications, comment on l'accepte ? Parce qu'on peut le prendre aussi comme une autorité un peu remise en question, Pascal.
Aujourd'hui, je parle manager aujourd'hui, c'est donner la parole et écouter les joueurs que tu encadres. On n'est plus dans le management qu'on a connu dans les années 80, où il y avait un boss et puis les autres, les joueurs, on la fermait. Là aujourd'hui, bon voilà, il faut écouter les revendications. On n'est pas obligé de souscrire à toutes celles qui sont demandées.
T'as eu des revendications?
Ça m'arrive souvent. Oui, ça arrive. Mais ça m'arrive, ça m'est souvent arrivé des joueurs qui se plaignent de la cadence des séances d'entraînement, qui pensent que on double trop les séances par jour. Bon, voilà. Après, c'est en concertation avec le staff, avec les représentants des joueurs. Quelquefois, il nous arrive, nous entraîneurs, d'annuler une séance d'entraînement ou de l'alléger parce que les joueurs en éprouvaient le besoin.
Toi, t'es prêt à faire des compromis comme coach, en tout cas.
Oui, mais ça n'altère pas ton leadership, le fait de faire des compromis. Voilà. Après, quelquefois, je sais pas, des demandes comme est-ce qu'on pourrait pas partir la veille plutôt que le jour même. Ça arrive quelquefois que les joueurs réclament ce genre de doléances pour les matchs à l'extérieur ou l'inverse. Encore une fois,
Pierre, t'allais demander des choses au coach?
Oui, bien sûr. Ça, mais je pense que quand t'es capitaine, et pas que d'ailleurs, je pense qu'un bon manager, il a évidemment une relation privilégiée avec son capitaine qui représente les joueurs dans les sports co, mais aussi d'autres relais dans l'équipe. C'est-à-dire quand t'as un groupe de 40, pas fonctionner juste le manager et le représentant qui est le capitaine.
Ouais, souvent c'est 5-6 joueurs.
Il te faut des relais. Ouais. Il faut que tu, quand t'es manager, tu prends la température, tu vois ce qui convient, ce qui convient pas, tu t'adaptes en permanence.
Pascal, toi, tu voyais en permanence des joueurs même seul à seul.
Bien sûr.
Oui, c'est mon management. Mon management, c'est un quart d'heure tous les mois avec tous les joueurs, tous les membres.
Ça te permet de savoir où tu vas.
Du club. Je prends la température, le pouls, on me dit des choses.
Quand tu dis, Marc,
les délégués du personnel chez nous dans nos équipes cyclistes. On a des délégués du personnel qui sont des personnels d'encadrement et aussi des coureurs.
Pour représenter les coureurs.
Bien sûr.
Non, mais c'est bien aussi que nos auditeurs et auditrices comprennent comment ça marche.
On fonctionne comme une
équipe, c'est comme une entreprise.
Nous, on est comme une entreprise. On est 120
aussi,
personnes.
Tous les clubs ont des délégués du personnel.
Chacun vient s'exprimer. On évoque les situations.
T'as un coureur qui vient de voir, il dit Marc, j'ai pas eu mes tickets resto. Ah, c'est quoi l'histoire?
Et peut-être qu'il va me dire
le
déplacement à tel ou tel endroit a été mal organisé. Le stage était pourri. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier les choses et s'améliorer? Mais ça fait partie de la vie. D'une équipe sportive qui est aussi une entreprise.
Ça va dans le sens
qui est une
constructif.
Qui a le fonctionnement d'une entreprise.
Exactement.
Pour revenir au tennis, là où peut-être le rassemblement des joueurs a fonctionné, c'est quand il y a eu le cas Naomi Osaka et de son burn-out devant les médias.
Oui, bien sûr.
Qui s'est passé à Roland-Garros. Là, il y a eu une prise de conscience de l'ATP, de la WTA, des grands chelems sur le surmenage et le fait qu'on demandait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aux joueurs.
Et souviens-toi, l'Open d'Australie aussi, les caméras qui étaient omniprésentes, notamment les joueuses qui disaient mais on ne peut pas péter un plomb tranquillement sans qu'on ait besoin d'être filmé.
Il n'y a plus un endroit où à part sous la douche et encore, où on peut être tranquille là. Il y a eu une écoute, mais parce qu'en fait, ça touchait un système d'organisation qui est très, très facile à changer. C'était finalement des petites règles à ajuster. Et ils ont eu peur finalement, parce que certains joueurs ne donnent plus autant de temps après les matchs. Et là, ça devient problématique parce pour les diffuseurs.
Mais parce qu'en fait, c'est une question d'argent. En fait, c'est quand ça devient vraiment une question d'argent.
Ça devient une question d'argent. Et bien là, effectivement, ça se résout pas en un coup de cuillère. Il faut aussi savoir dans le tennis que depuis toujours, ton prize money, quand tu touches ton prize money, il y a un pourcentage qui est prélevé par l'ATP et la WTA qui constitue ta retraite. Et effectivement, dans les revendications qu'on a entendues là, et je l'ai peu entendue, il y a aussi la demande des joueurs que les tournois du Grand Chelem participent de manière plus intense sur la retraite des joueurs. Parce qu'en fait, à un certain âge, donc tu capitalises, tu choisis pas où tu places cet argent. Ils te le prélèvent, ils te le placent, c'est aux États-Unis et à 50 ans, tu peux récupérer cet argent comme une retraite.
À 50 ans ?
Ouais, à partir de 50 ans. D'accord. Absolument.
Alors que la carrière d'un sportif s'arrête.
C'est la fin de la carrière, nous.
Ah ouais, voilà, c'est vrai ça. Au football. Fin de la carrière aussi.
Chaque année, il y a un
tu touches un pactole en fonction de tes années de présence dans le sport.
Et donc c'est ta cotisation à l'ATP, à la WTA où tu participes. Et donc comme les grands chelems ne dépendent pas de l'ATP, de la WTA, mais de l'ITF, c'est en ça où les joueurs veulent peser. Et moi, je trouve que ces revendications sont justes. Après, je sais pas si les moyens ont été mis du bon côté. Ils pourraient faire des boycotts ailleurs. Hein.
Sarah, est-ce que oui. Toutes les joueurs et joueuses, ils ont conscience de ça? Est-ce qu'ils savent pourquoi le combat est fait?
Est-ce qu'ils connaissent bien leurs droits, en fait?
Non, t'as raison, parce que t'as pas le temps de penser à tout ça. Je veux dire, ton temps, il est sur le terrain, il est sur ta récupération, programmation.
Je vais te donner un exemple. Nous, dans le cyclisme, quand un jeune passe professionnel, quand il termine sa première année, il a un stage obligatoire de formation et d'information auprès du syndicat. Le syndicat des coureurs cyclistes en France organise chaque année pour les nouveaux qui arrivent dans le peloton une session d'une semaine où ils sont formés et où on les informe sur leurs droits et devoirs et sur toutes les situations qu'ils vont rencontrer dans le monde professionnel.
Nous, c'est du mentoring. T'as des anciens joueurs et d'anciennes joueuses qui se mettent à disposition. Mais c'est la démarche du joueur ou de la joueuse.
Nous, c'est obligatoire. Voilà. Le jeune, quand il arrive dans le peloton, il est obligé de...
Mais moi, je suis assez pour en fait qu'on oblige les gens à se former. Quand tu arrives dans les milieux pro, il faut savoir aussi quels sont tes droits et quels sont aussi tes devoirs. Mais c'est important d'en avoir conscience. Et je pense pas que ce soit le cas, et tout sport confondu, là, pour le coup. Je pense que si les organisations mettent pas ça en place, professionnelles... Après, il y a deux choses qui font bouger. Hein. C'est l'argent, hein, quand il y a des enjeux financiers majeurs, ou une prise de conscience collective sur un danger. Voilà.
Regarde le lockout en NBA, ils ont bien réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Hein.
La grève, voilà, ils avaient menacé de faire... Ils l'ont fait d'ailleurs, et ils ont obtenu la chose. Et il s'est passé la même chose en NBA féminine, hein, parce qu'ils ont obtenu maintenant une revalorisation aussi de leur salaire. Fascinant. On n'avait jamais trop évoqué ça, de comprendre aussi pour que nos auditeurs et auditrices comment on marche le sport, parfois comme une entreprise, comme l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous tous, et les sportifs et sportives ont des droits, comme vous toutes et tous, et c'est vrai qu'on parle jamais des cotisations de retraite, des droits, de ce qu'on peut avoir. Pierre, par exemple, se demande où est passée sa retraite. Hein, j'ai bien vu dans son regard.
Je me suis quand même interrogé quand vous avez dit nous c'est 50 ans. Et moi je dis je crois que c'est zéro. Quoi. En fait, il n'y en a pas. Quoi.
Bon, ben voilà, il y a une lutte à mener. Allez, on referme la porte du vestiaire. Je te filerai un ticket resto.
Merci,
Pierre. T'inquiète, je vais tranquille, c'est pour moi.